Tribu, Laurent Caspary.
Bonjour, bienvenue dans cette première émission de Tribu. Tribu, c'est désormais tous les jours du lundi au vendredi entre 11h et 11h30 sur la première. Comme vous l'avez peut-être entendu juste avant les informations de 11h à la fin de CQFD, eh bien, on vous rassure tout de suite, Vacarme ne disparaît pas, mais change de tranche horaire. Vous retrouverez désormais toute l'équipe de Marc Jules et Véronique Marty à 13h sur la première tous les jours. Quant à nous, dans Tribu, eh bien, on va vous proposer quotidiennement un menu société avec un invité et un thème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, concrètement, cette semaine, par exemple, nous parlerons de la propagande individualisée qui se déroule sur les réseaux sociaux, à chacun son petit combat numérique bien calé derrière son ordinateur. Ou bien nous évoquerons encore les nouveaux papas, la réaction de notre société face aux épidémies, comme par exemple celle d'Ebola, ou encore la situation du patrimoine archéologique en danger dans des zones de guerre. Mais avant de décliner ce menu tout au long de la semaine, il nous importait quand même de poser un cadre pour cette première émission. Le cadre de notre société, la société suisse, plus largement la société occidentale, celle qui nous est commune et dont nous allons parler tous les jours dans Tribu. Et nous allons poser ce cadre en s'appuyant sur un récent sondage qui montre que 75% des Suisses se disent globalement heureux. Et on va en parler avec vous, Olivier Mochler, bonjour.
Bonjour.
Olivier Mochler, vous êtes sociologue et chercheur associé à l'Université de Lausanne. Merci d'essuyer les plâtres de cette émission, de l'émission Tribu. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet avec ce fameux sondage, un mot quand même sur ce terme, tribu. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse ou la société suisse est une forme de tribu, Olivier Mochler?
Ben, c'est vrai que d'un point de vue sociologique et notamment aussi anthropologique, on peut s'interroger hein, sur cette application d'un terme qui a été utilisé pour décrire les sociétés autres, hein, pour décrire l'altérité à la Suisse, d'appliquer ça à la Suisse. Alors, ça peut peut-être amener une mise à distance critique bienvenue, un décentrage. Ou est-ce que c'est peut-être pour réenchanter notre société, finalement, se dire ben, on est un tout petit peu comme ces peuples qui sont finalement assez différents de nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est en regardant l'utilisation du mot chez les anthropologues, chez les ethnologues, c'était la tribu, ça décrivait au fond une société pré-étatique. Hein. C'était, il y avait la bande, la tribu et ensuite les états modernes. Donc évidemment, nous, je ne crois pas qu'on puisse dire que la Suisse est une société pré-étatique du tout, hein, puisque même si c'est effectivement un état assez particulier, on va en parler, puisque c'est une confédération, ce sont au fond 20, je crois 26.
Oui, c'est facile de trouver les autres. On disait c'est l'altérité. En Suisse, il y a toujours un autre. Hein. Il y a un autre canton,
Et voilà, elle est chez nous, c'est vrai qu'elle est chez nous, puisque c'est ce que j'allais dire, c'est une tribu assez complexe. Hein. Déjà, bon, il y a proche de 8 millions d'habitants. Il y a 3 ou 4 régions linguistiques et aires culturelles. Il y a ce dont on parle des fois moins, ben, des groupes sociaux, des classes sociales, mais aussi des générations qui s'opposent sur certains sujets, etc. Ben, c'est de ça qu'on essaiera de parler, je pense. Une tribu, peut-être, mais une tribu en tout cas assez compliquée, assez complexe.
Je le disais à Stéphane Gabiou, dans CQFD juste tout à l'heure, on va parler même, pourquoi pas, de la société occidentale. C'est une tribu très 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 large.
Alors c'est vrai que depuis que McLuhan a parlé du village global, alors c'était encore avant Internet, hein, mais Internet évidemment a quasi d'une certaine manière réalisé alors plus ou moins réalisé, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde, il faut le rappeler, qui a accès à Internet, etc. Mais disons qu'on commence à s'en rapprocher. Peut-être que l'Occident, voire le globe, est un village global et donc une sorte de tribu, mais je pense que le sociologue est là aussi pour rappeler ben, les divisions, les oppositions, les complexités de cette, entre guillemets, tribu globalisée.
Alors Olivier Mochler, on va rebondir maintenant sur ce sondage point2suisse.ch qui a joué le pari de l'enquête Gulliver, hein, l'Expo 64, c'était il y a 50 ans. On en a pas mal parlé, avec une question générale. Hein. Qu'est-ce qu'être un bon Suisse? Est-ce qu'on peut être un bon Suisse si on se lève à 9h du matin? La question a été reposée 50 ans plus tard. Mais tout d'abord, j'aimerais venir un peu sur un constat qui apparaît en fin de ce fameux sondage. On voit 76,4%, plus de 75% des Suisses qui se disent soit très, soit plutôt heureux. C'est une surprise?
Alors, c'est oui et non. Non, plutôt non, parce qu'effectivement, il y a des recherches sur le bonheur. Alors, on peut avoir mettre plein de bémols scientifiques, etc. Mais bah, une des manières les plus simples d'enquêter là-dessus, c'est de demander aux gens, est-ce que vous sentez-vous heureux ou pas, alors avec tous les biais que ça peut avoir. Mais c'est vrai que ce qu'on constate tout bêtement, c'est que, ou tristement peut-être, c'est que finalement, plus le niveau de vie est élevé, plus le niveau de formation est élevé aussi des pays, plus ils sont heureux. Donc, c'est dans ce sens-là, puisque la Suisse, effectivement, est dans la course au PIB, plutôt devant, etc. C'est pas si étonnant que ça que ben, les trois quarts, effectivement, se disent heureux ou très heureux. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'effectivement, 5 ou 6% se disent plutôt pas ou pas du tout heureux. Donc, c'est tout petit. Bon, après, c'est intéressant. Il y a 17% qui ont coché ni. On ne sait pas très bien. Mais disons que c'est très largement un peuple heureux. Après, effectivement, ce que le sociologue a envie de dire, c'est que, ben, comme à l'époque aussi, hein, il y avait ce pari de Gulliver, hein, qui débarquait dans l'Expo de 64. Et d'ailleurs, justement, c'était ça l'idée, hein, ce Gulliver, ce géant qui s'approchait d'une petite peuplade. Il y avait déjà cette idée de tribu, au fond. Essayer d'étudier, de comprendre cette tribu suisse, entre guillemets, Gulliver le géant. Déjà à l'époque, au fond, Boltanski, ensuite, en a fait un livre, hein, Le bonheur suisse. En 1966, qui est passé complètement inaperçu, si jamais peut-être que maintenant les gens le liront, Le bonheur suisse de Boltanski en 1966, où il posait la question, mais finalement comme le faisait aussi Max Frisch et des intellectuels suisses, etc., sur ce bonheur suisse justement, que veut dire être heureux en Suisse. Et je crois que ce sondage d'aujourd'hui permet aussi de le faire, justement, de voir un peu derrière ces 75% de bonheur, qu'est-ce qu'il y a au fond derrière cela.
Alors on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Un mot quand même, on sait que les résultats de Gulliver ont quasiment totalement été détruits, donc il nous reste quelques petites indications. Par rapport au bonheur, est-ce qu'il y avait une question, est-ce qu'on arrivait à mesurer le pourcentage de Suisses qui se disaient plus ou moins heureux?
Alors je crois pas qu'il y avait c'est d'ailleurs peut-être aussi intéressant de le constater, la question, quelles sont les questions qu'on posait à l'époque et aujourd'hui, non, je crois pas qu'il y avait une question sur le bonheur, on pensait pas la poser comme ça, faut dire que ce questionnaire avait été censuré plusieurs fois, etc., enfin je veux dire réduit, filtré. Par contre, effectivement, il y a Boltanski cite dans son ouvrage une caricature du Nebelspalter, alors magazine quasi inconnu en Suisse romande, mais très connu en Suisse allemande encore aujourd'hui, qui au fond, voilà, montrait un Suisse, le Suisse typique, qui dit, mais au fond, j'ai tout pour être heureux, j'ai une voiture, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai un jardin, j'ai une femme qui fait la cuisine, enfin on était en 60, dans les années 60, etc. Mais si seulement je pouvais aussi avoir le bonheur. Alors bon, effectivement, toutes les conditions sont réunies pour être heureux. Mais est-ce que finalement, quelles sont les ambivalences de ce bonheur ?
Ce qui est intéressant, hein, on est dans l'actualité puisque l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, vient de faire c'est un sondage, c'est des statistiques, mais vient de montrer que les régions suisses, là ils ont fait des régions à travers le monde, les régions suisses sont les championnes mondiales du bien-être. Là aussi, ça confirme, hein, pas forcément à l'image d'un pays, mais dans les régions, on voit que les régions lémaniques, Zurich, ces grandes régions-là sont très très haut dans le classement du bien-être au niveau international.
Voilà, avec effectivement des indicateurs un peu supplémentaires, c'est-à-dire aussi le nombre de meurtres par 100 000 habitants, le taux de chômage très bas, enfin tous ces chiffres qui font effectivement que toutes les conditions, au fond, en Suisse sont réunies, c'est vrai, pour être heureux.
Formidable. Alors on va essayer de comparer ce qui s'est passé entre 1964 et 2004. Alors les valeurs peut-être, Olivier Moechler, qui restent par rapport à 1964. C'est intéressant, hein, dans une des questions, on voit que aller voter pour un Suisse, c'est très important, c'était très important en 64, ça reste très important aujourd'hui. Les Suisses aujourd'hui disent bon, on peut parler qu'une seule langue nationale, c'est pas très grave, à plus de 80%, on peut ne pas chanter l'hymne national, c'est pas très grave. Mais alors, ne jamais voter, alors là, ça passe pas. Pourquoi ?
Effectivement, globalement, par rapport à ces valeurs, on constatait aussi avec René Lévy, puisqu'on a mené ces analyses ensemble, une décontraction quand même par rapport à certaines valeurs suisses d'identité nationale. Vous avez parlé de la langue, ne pas chanter l'hymne national avec les autres, c'est largement possible aujourd'hui, tout en étant bon suisse, être naturalisé aussi. Il y a cette fameuse question, se lever à 9h du matin, qui avait fait fureur à l'époque, qui avait été presque censurée, parce que c'était un tout petit peu un tabou, quoi, se lever à 9h du matin, être un bon suisse. Ben déjà à l'époque, du peu qu'on a de résultats qui sont restés, 60% disaient mais aussi, c'est pas un problème. Aujourd'hui, on en est à 70, 80 ou même 90% selon l'échantillon qu'on prend aujourd'hui. Et autre question d'ailleurs intéressante à l'époque, ne pas être un bon soldat. Donc c'était une question qui figurait dans le questionnaire de Gulliver, donc il faut le faire. 47% des sondés là pendant l'expo disaient oui, on peut, enfin donc c'est une petite minorité, enfin juste moins de la moitié, être un bon Suisse, être un mauvais soldat. Aujourd'hui, on a posé la question de ne pas servir dans l'armée, donc c'est encore pire, on n'est même pas dans l'armée, 86, enfin autour de 80% des gens disent mais oui, on peut être un bon Suisse et ne pas servir dans l'armée. Par contre, c'est vrai, vous le dites, ne jamais voter, ça c'est très intéressant, ça s'est même encore durci, là il y a quand même un groupe important qui dit non, ne jamais aller voter et être un bon Suisse, c'est incompatible. Alors je pense que ça renvoie effectivement à une valeur très, très profonde, profondément suisse, enfin ressentie comme telle, la démocratie directe. Et finalement, voter n'est pas qu'une affaire politique ou de citoyenneté, mais c'est au fond un peu une norme sociale même, dirait le sociologue, c'est quelque chose qui va plus loin que juste... Finalement, on a le droit de ne pas s'exprimer, hein. Mais là, non, visiblement pour les Suisses, là, il y a un côté normatif très fort où il faudrait profiter de ce droit.
Ça peut paraître paradoxal parce que lorsqu'il y a des votations, on a des taux qui sont aux alentours des 50%, quand ça dépasse 50%, on estime que c'est un excellent taux. Ça veut dire qu'il y a toujours à peu près la moitié des citoyens qui se déplacent. Pourtant, là, on le voit, les gens considèrent que c'est important. C'est important d'aller voter de temps en temps, mais jamais voter. C'est là que ça pose problème.
Oui, bon, ça rejoint un peu d'autres résultats où effectivement il y a certaines idées sur ce qu'on doit faire et parallèlement d'autres questions ont montré quand même une, alors ce qui est pas ni négatif ni positif, mais en tout cas une grande individualisation aussi de la société qui a commencé. Alors quand est-ce qu'elle a commencé? Vers 1900 probablement, vers au 19e siècle, mais disons que dans les années 60 on la constatait déjà aussi cette individualisation, ce qui va de pair avec le consumérisme, etc. Et aujourd'hui effectivement quand on voit des questions quand même assez délicates d'ailleurs sur l'aide au suicide, sur l'avortement. Bon, qui est plus si délicat, l'avortement, sur la prostitution, sur l'âge de la retraite, enfin, sur toutes ces questions, les sondés sont assez ouverts à moins punir ce genre de choses, à être ouverts à cela, à flexibiliser l'âge de la retraite, etc.
Donc, ils sont plus sévères avec la fraude fiscale et l'abus de l'aide sociale, par exemple.
Voilà, et d'ailleurs, notamment plus sévères avec l'abus de l'aide sociale qu'avec celui de la fiscalité, puisque là, on peut supposer qu'effectivement, c'est un délit qui est probablement bien plus répandu qu'effectivement que l'abus de l'aide sociale. Ça, c'est après, effectivement, lié à la perception qu'on a de ces problèmes. Évidemment, les gens ils répondent par rapport à leurs représentations. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ces représentations sont informées par les médias, mais aussi, au fond, et dans les médias, par les politiques. Et c'est vrai que les quelques cas d'abus social qu'il y a sont souvent mis en exergue, sont souvent par certains partis. Du coup, ça influence évidemment la perception des gens. C'est une enquête sur la perception. Il ne faut jamais l'oublier.
Le Suisse d'aujourd'hui se sent soutenu essentiellement par la famille Olivier Möschler. Ça peut être assez intéressant. On aurait pu imaginer que la patrie, le pays, le cadre, on va dire, étatique, puisse arriver assez haut. En l'occurrence, il vient assez loin derrière, avec 33%. Hein. C'est donc le cercle restreint, ça reste le cercle familial qui est le plus rassurant.
Ah, ça, c'est effectivement quand même assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a une autre question qui posait la question, en quoi la Suisse est un modèle pour l'étranger? Donc démocratie, neutralité, plurilinguisme d'ailleurs, prospérité, tout ça vient avec 90% tout en haut. Hein, et parallèlement, ensuite, quand on demande, mais au fond, par quoi vous sentez-vous soutenu? Effectivement, c'est le cercle proche, comme vous dites, la famille, 75%, les amis, 63%, un peu le partenaire, 55%. Et la question qui se référait à la patrie, à la Suisse, un tiers. Donc on est un tout petit peu abasourdi. Le travail aussi, le travail qui est tellement important pour les Suisses, ça ressort par contre d'autres questions aussi. Mais là, par rapport à être soutenu par le travail, peut-être temps économique plus difficile, etc. Un tiers seulement le disent. Croyance, foi, un quart. Association, hein, c'est un pays d'associations, la Suisse. 22% des gens se sentent soutenus par les associations. Au fond, effectivement, on a un tout petit peu un phénomène, alors pas de repli, mais en tout cas de rééchelonnement par rapport au réseau proche, par rapport à la sphère privée.
Les Suisses aussi, il y a une question que je trouvais intéressante dans l'histoire récente de la Suisse. Qu'est-ce que vous élimineriez? Quel est l'événement qui vous pose problème? Alors, la première chose qui arrive, c'est le grounding de Swissair. C'était en 2001. Les Suisses, s'ils pouvaient éliminer un pan de l'histoire suisse, ce serait celui-là. Pourquoi? Comment est-ce qu'on explique ça? Parce que, au final, au vu de l'histoire suisse, c'est un détail, le grounding.
Alors, il faut quand même dire qu'il est suivi de près, ce grounding, par la politique des réfugiés dans la Deuxième Guerre mondiale, qui vient juste après, où effectivement aussi une proportion assez grande dit ça, j'aurais bien aimé effacer de nos livres d'histoire, enfin, de notre histoire. Mais effectivement, je crois que le grounding de Swissair, ce que ça nous montre, c'est que le Swissair, c'était bien plus que simplement une entreprise, une boîte économique. Hein. Ça faisait partie de l'identité nationale. D'ailleurs, il y a une autre question sur les sigles. Quels sont les sigles qui vous inspire confiance? CHF, hein, le franc suisse, les CFF, les PTT qui d'ailleurs n'existent plus vraiment, sortent très bien. Donc là, on a une forte confiance par rapport à des sigles, à des éléments comme Swissair qui sont pas que économiques. Par contre, les Suisses font le tri, puisqu'il y a aussi une autre question qui posait la question du sauvetage de l'UBS. Est-ce que vous vouliez, en 2008, est-ce que vous voudriez le rayer de l'histoire suisse? Et là, il y a aussi une proportion assez importante des gens qui disent « Oui, celui-là, j'aurais bien voulu l'enlever de l'histoire suisse. » Donc, le grounding, le sauvetage... Enfin, les gens sont, je crois, assez différenciés par rapport à leur attitude à ces grandes entreprises. Notamment quand elles ont une valeur plus que simplement économique, justement, vraiment identitaire.
Les Suisses et leur rapport au bonheur d'être suisse. On décortique ce sondage miroir de celui de l'Expo 64 avec vous, Olivier Möschler, sociologue à l'Université de Lausanne. Mais on va poursuivre cette émission Tribu avec un morceau de musique qui a réussi à sa sortie en 2001 à réconcilier un peu les romans avec le dialecte suisse-alémanique. C'est Emigé de Stéphane Escher.
Es Skelutiverd en alle dvergen hier. Ens liep for zingen zo wie het hier. Ik zing om geen prijs, nee putjes, nee. Wil ze hem mee, ja, hey. Ze waren veel gaan in bronken overrecht. Om te denken dat ze geen is groot op weg. Ons lastje toef naar wie een zware steek. Dat ze hem verslaat in steen. Doch dünkt sie manchmal schon, sie sind nicht so schlimm. Es ist gleich das Glück, cool, wenn es gar nicht weh, dass wir Hemmiga haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der feine Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen haben, dass wir Hemmiga. Hübsches Mädel hier her. Jetzt schauen wir doch höchstens ein auf den Weg, weil wir Hemmiga haben. Und wenn man sieht, was heute der Mensch hat rot, so sehe ich wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch offen ist allein, dass ich Hemmiga.
Hemmiga. Hemmiga de Stefan Eicher. Alors à l'écoute de ce titre, on ne peut qu'aborder, Olivier Möschler, la question du Rechtigraben. Avec vous, sociologue, on évoque dans Tribu ce sondage récent, miroir de celui de l'Expo 64, qui nous montre que les Suisses sont heureux d'être Suisses. Le Rechtigraben, bon d'abord, on en parle souvent à chaque votation, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe toujours? Et puis surtout, quelles sont les perceptions de chaque côté de ce fameux Rechtigraben, du côté alémanique et du côté roman? Elles ne sont pas identiques, ces perceptions?
Alors par rapport à ça, c'est vrai que cette enquête elle a montré quelque chose de tout à fait étonnant. Bon, il y a un peu un Rechtigraben, d'ailleurs 78% des sondés estiment qu'il y en a un, puisqu'il n'y en a que 22% qui disent, à une question de savoir comment le supprimer, qui disent non mais il n'y en a pas, donc 78% estiment qu'il y en a un. Alors, et puis effectivement, on constate alors quelques clivages. Par exemple, les romans et les italophones puniraient plus fortement les actes pédophiles que les Suisses allemands. On ne sait pas très bien pourquoi. Le clonage humain, la peine de mort, enfin, serait plus rejeté du côté alémanique que du côté roman, par exemple. Mais là où on était très étonné, au fond, c'est que c'est pas tellement ce fossé-là qui ressort des résultats entre les latins et les alémaniques, c'est plutôt un polentagraben. Alors, je vais faire un scoop. Polentagraben ou spaghettigraben, à vous de choisir. En fait, on a constaté dans tous les résultats, dans presque toutes les questions, une crispation, disons, beaucoup plus grande du côté du Tessin par rapport à toutes ces questions sur les étrangers, par exemple.
Ça s'est ressenti très fort le 9 février dernier. Hein, c'était parfaitement.
Alors voilà, au fond, ça rejoint la réalité sociale. Donc on est tout à fait rassuré. Et aussi une sorte de ce qu'on a peut-être appelé d'une sursuissitude par rapport aux valeurs suisses, effectivement, où au Tessin, on est beaucoup moins d'accord que d'être naturalisé, maîtriser qu'une seule langue, ne pas chanter l'hymne, être à l'aide sociale, avoir fait de la prison, que tout ça, ce sont des qualités qui peuvent aller de pair avec être un bon Suisse. On se dit probablement qu'il y a du côté du Tessin un tout petit peu. Alors effectivement, d'un côté, noter cette exposition beaucoup plus grande par rapport aux étrangers, enfin aux travailleurs étrangers, aux transfrontaliers. Hein, statistiquement, on voit que c'est très élevé au Tessin, beaucoup plus qu'à Genève ou de toute façon qu'ailleurs en Suisse. Et une autre chose dont on parle peut-être pas assez, c'est aussi à l'inverse, à l'interne. Hein, c'est-à-dire que finalement, c'est peut-être une région, quand on interroge aussi un peu les gens au Tessin, qui se sentent un tout petit peu des fois délaissés par le reste de la Suisse. Alors, je dis toujours qu'il n'y a plus de conseiller fédéral tessinois depuis des années. Est-ce que c'est important ou pas? Oui, quelque part, probablement. Disons, c'est un symbole, ça symbolise un peu ce
oui,
côté où cette région...
Tous, hein, tout le conseil fédéral est allé au Tessin récemment.
Alors, ils y sont allés, peut-être.
Essayer de renouer des liens, peut-être.
Voilà, hein. mais je pense que c'est une région, et ça, on n'en parle justement vraiment pas assez, qui à la fois se sont menacés du dehors et un peu délaissés du dedans. Et nous, dans les résultats, on a vraiment vu un problème brûlant de ce côté-là, plutôt qu'entre les deux régions latines et les Suisses allemands.
On évoque le rapport à l'étranger, hein, de plus en plus difficile. Alors là, à la question adhésion à l'Union européenne, le sondage qui a été fait, un sondage scientifique, hein, c'est non à 85%, c'est clair et net.
Oui, bon, alors là, on peut reparler effectivement de l'anthropologie, de l'ethnologie et des tribus. C'est vrai qu'au fond, la Suisse, qui dès le départ est au fond divisée, et qui est une Willensnation, c'est un pays de volonté. Alors pour trouver cette volonté, des fois, on a l'impression que c'est peut-être facile aussi plus facile, mais ça, c'est un phénomène universel, justement, de se projeter contre le eux, hein, les autres. Il y a le nous. Le nous est vraiment en fonction de vous, des autres à l'extérieur. Et là, ça se ressent très fortement dans ce sondage, effectivement. Toutes les questions qui ont trait, est-ce qu'on doit augmenter l'aide au développement, est-ce qu'on doit augmenter les programmes d'intégration pour les étrangers, est-ce que notre modèle économique est basé sur l'exploitation des pays pauvres, est-ce qu'il faut donner le droit de vote aux étrangers après 50 ans, toutes ces questions sont jugées très sévèrement, je pense tout à fait différemment que ça aurait été le cas dans les années peut-être encore 70 ou comme ça. Là, on a vraiment des avis très tranchés. Même si, alors très étonnant, quand on pose la question aux gens, est-ce que finalement les étrangers contribuent au succès économique suisse? Là, par contre, une grande majorité dit oui, tout à fait. Et donc, ça fait un tout petit peu penser aux années 60-70, quand on disait avec Max Frisch, bras, châssis, uominino, hein, on veut les bras, on les accepte, ils peuvent travailler pour nous, mais on veut pas les hommes, on veut pas l'être humain entier, les étrangers. Il y a un rapport très crispé, difficile aux étrangers et à l'étranger, effectivement aussi à l'Europe, etc., à l'étranger en général, qui ressort de ce sondage.
Olivier Mocher, je vous propose qu'on sorte un tout petit peu des frontières suisses avec un extrait d'une émission. C'était Luc Ferry interrogé par Manuela Salvi dans Haute Définition. C'était en 2008, au début de la crise économique, financière. Manuela Salvi demandait au philosophe et écrivain français, ancien ministre de l'Éducation, si notre modèle de société comprenait capitaliste n'était pas à bout de souffle. Écoutez sa réponse.
Si on avait dit à Victor Hugo, on va parler très simplement, quand il écrivait Les Misérables, hein, qu'un bébé suisse ou français qui naît aujourd'hui, il a l'éducation gratuite jusqu'à 16 ans, il a la santé gratuite toute sa vie, il peut insulter le président de la République sans risquer de se retrouver à Guernesey, il a une espérance de vie qui est le double de celle qu'il avait au 19e siècle, bon, etc., etc., Victor Hugo, il serait tombé de sa chaise. Donc ne disons pas ce système capitaliste ou libéral à bout de souffle. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu un système qui a apporté autant de liberté et de bien-être aux humains. Donc, il faut quand même modérer les critiques du capitalisme aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est un système d'organisation du non-sens. Voilà. On travaille toute la journée, on a en effet la liberté, on a malgré tout, et quoi qu'on en dise, un niveau de vie qui est vraiment incomparable en tout cas à celui des Chinois ou des Africains ou des Indiens, mais on ne sait pas ce qu'on fabrique sur cette terre, si je puis dire. C'est ça le vrai problème. Et on ne sait pas quel monde on va laisser à nos enfants et quel mode de vie on a vraiment envie d'avoir. Au fond, on passe notre existence entière à travailler comme des fous, mais nous ne vivons vraiment en accord avec nous-mêmes, j'allais dire qu'au mois de juillet et au mois d'août.
Ça veut dire en vacances, c'est ce que veut dire Luc Ferry. Nous sommes en train de faire, on fait un petit peu ce qu'on veut, plus ou moins. Olivier Mocher, il a raison Luc Ferry, si on prend un peu de recul historique, on vit une époque formidable, on a la santé, l'éducation, la liberté, qu'est-ce qu'on peut demander de plus?
Bon, alors on pourrait parler effectivement aussi dans une perspective anthropologique, de l'ethnocentrisme, hein, de cette idée que finalement chaque tribu a toujours eu, souvent le mot qui servait à désigner les êtres humains d'une tribu était le même que celui pour désigner l'être humain en général. Donc là on a un tout petit peu l'impression qu'on généralise effectivement un modèle de société qui est d'ailleurs surtout, dit-il ensuite à la fin, un modèle économique à l'humanité. Bon, quand on regarde l'actualité d'ailleurs, on n'a pas l'impression forcément que tous les humains profitent tellement de ce système, c'est déjà une chose. Et une autre chose, effectivement, c'est que dans le sondage qu'on a mené cet été, on voit bien que les Suisses sont tout à fait nuancés. Tant qu'il s'agit du travail, des PME, etc., ils sont plutôt positifs. Mais c'est vrai que l'économie internationale, financiarisée via l'UBS, le WEF, etc., s'en sort très mal. Donc je pense que les Suisses, ils sentent un peu cette tension entre différentes formes d'économie.
Merci beaucoup, Olivier Möschler, d'avoir été notre tout premier invité. Excellente journée à vous. Merci.
Merci à vous.
C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Yves Roulin, Adrien Mayora à la technique, à Céline Zuffray pour l'assistance à la production et puis à Karine Villomeau pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des décodeurs qui effectue sa rentrée et aujourd'hui qui se trouve à Payerne au musée militaire de l'aviation en compagnie du colonel Yann Logan, le grand patron d'Air 14 Rompé. À demain. Merci.
Parfait. Merci, au revoir.
Au premier regard, je la trouvais si jeune que je la pris pour un garçon de 15 ans.
Véritable phénomène littéraire,